Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Les grandes voix. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrero.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Bonjour.
À quand la fin du bail d'Elisabeth Borne? À Matignon, une nouvelle fois, la Première Ministre aurait été recadrée en conseil à l'Elysée, en l'occurrence sur les propos qu'elle aurait tenus sur Radio J à propos du RN, héritier de Pétain. Pas vrai, dit Emmanuel Macron en plein sommet de Bratislava. Mais quelle que soit la vérité, les entourages sont formels, les tensions s'accumulent, les liens se distendent entre les deux têtes de l'exécutif. Jusqu'à quand? C'est la question. La France va-t-elle à nouveau descendre massivement dans la rue mardi prochain? Dernier baroud contre les retraites alors que jeudi le verdict tombera ou pas et que déjà l'examen de la proposition d'arrogation Liotte a tourné au pugilat. En commission des affaires sociales, les retraites, on tourne la page. Second sujet de discussion. Enfin, quelle solution contre le harcèlement scolaire? Le cas de la jeune Lindsay, 13 ans, insultée du matin au soir en classe sur les réseaux sociaux, va-t-elle faire bouger les choses? La famille dépose 4 plaintes et le ministre Pape Ndiaye apparaît démuni. On en parle à la fin de cette émission. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Dimanche dernier, sur Radio J, la Première ministre a qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain à l'idéologie dangereuse. Mercredi, en Conseil des ministres, le président aurait lancé une pique, sans la nommer, en précisant qu'il ne fallait pas combattre l'extrême droite en utilisant des arguments moraux éculés. Emmanuel Macron dément devant les caméras à Bratislava. Mais on a l'impression, Gérard Carrero, que ça sent quand même de plus en plus le sapin à Matignon.
Oui, pas forcément. C'est pas mon sentiment. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est vrai que cet échange, ça manque d'élégance. Si ça s'est fait comme vous venez de le raconter, ça manque d'élégance de la part du chef de l'État. Mais sur le fond, proposons-nous de regarder plutôt le fond. Sur le fond, c'est, me semble-t-il, plus un jeu de rôle qu'une opposition politique. Le jeu de rôle, c'est simple. Madame Borne, de par son passé, sa sensibilité de fille de déportée, il est normal qu'elle ait... Dès qu'on parle de cette période de Pétain, puisque Pétain était le chef de l'État français à cette époque, elle est très sensible à ça. Et en plus, elle a des convictions. Elle a eu tout au long de sa vie des convictions socialistes. Même si elle n'a pas appartenu véritablement au Parti socialiste, elle a travaillé pour des gestions socialistes, etc. Donc, qu'elle soit sur cette ligne-là ne me choque pas et ne me surprend pas. Macron, lui, c'est différent. Il n'a pas d'histoire personnelle au sens... de cette histoire tragique de Madame Borne. Il n'a pas d'histoire personnelle en politique. C'est un homme qui est arrivé, il y a eu les événements qui l'ont propulsé et son talent. Mais pour lui, c'est un énarque à profil financier, essentiellement. Et il a aujourd'hui une situation particulière. Il n'a pas de majorité et il faut... Alors, il rame. Il avait inventé pendant, et ça a tenu pendant, pendant un quinquennat, il avait inventé le en même temps. Là, il a inventé la stratégie. Moi, je drague à droite, et il le fait dans un certain nombre de domaines, et Madame Borne me tient la gauche pendant ce temps-là. Donc, je dis, à votre question, je réponds d'un mot, ça va durer au moins jusqu'à Noël.
Michel Cotta.
Oui, moi, j'en suis moins sûr sur le pronostic. Donc, simplement, pour revenir sur le débat, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. D'abord, je trouve que recadrer quelqu'un de cette façon-là, franchement, c'est humiliant et inutile.
Si c'est
si
le
on
cas,
a quelque
hein,
chose à lui dire, si on a quelque chose à lui dire, oui, si on a quelque chose à lui dire, on lui dit peut-être en face à face.
Il a peut-être.
Mais au fond, il y a une vraie double vision, et c'est peut-être une vision générationnelle. C'est vrai qu'à un moment donné, pour nous, nos âges, le Front National représentait quand même, effectivement, la fin de Vichy, un certain aspect de la collaboration. Beaucoup de gens venaient de là. Bon, mais maintenant. Il est vrai que ça a changé. L'électorat du Front National a été multiplié par je ne sais pas combien. On ne peut pas dire que tous les gens du Front National sont des fachos ou sont partisans de Pétain. Mmh. Donc je trouve qu'à la fois, les deux, c'est un perdant-perdant, cet échange entre le président et la Première ministre. Perdant-perdant parce qu'ils se sont opposés sur deux aspects et perdant-perdant parce que l'un est quand même d'évaluer, si c'est vrai, encore une fois. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de démentis. Et l'autre n'a rien gagné.
Charles Villeneuve.
Sur cette question-là, rapidement, je pense que Mme Borne a historiquement raison, mais politiquement tort aujourd'hui. Et que le président de la République a historiquement tort, mais politiquement, aujourd'hui en tout cas par rapport au RN, il a raison politiquement.
Oui,
Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé.
Catherine.
Madame Borne va à Radio J. Elle est interviewée par Frédéric Aziza. Et c'est lui qui vient la chercher pour lui dire, parce qu'évidemment, elle s'inquiète de la montée du Rassemblement national, et elle dit, mais oui, ils peuvent gagner en 2027. Alors, il lui demande, est-ce que le Rassemblement est héritier de Pétain? Alors, elle dit, mais oui, ben oui, il est héritier de Pétain. Voilà, bon, voilà, c'est ça. Et là, le journaliste ajoute, et Marine Le Pen? Ah, elle dit, il est pas... Il ne suffit pas de changer de nom pour changer de truc. Bon. Donc là, elle se trompe. Elle a répondu à des questions. Ce n'est pas elle qui est venue dire, vous savez, et puis voilà, Pétain. Elle a répondu, il est venu la chercher. Et elle a tort parce que Marine Le Pen, ben, je veux dire, elle ne peut plus être comparée. Elle a rompu avec son père. Elle l'a viré du parti. Et il est dans mauvais état et je crois qu'il pourrait disparaître. Moi, je pense qu'elle fera tout pour que ses obsèques soient les plus discrètes possibles. Donc, elle a dit ça. Puis le président, alors, version officielle de l'Élysée, il voulait reparler, recadrer, parce qu'en ce moment, après Madame Meloni en Italie, et puis ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire l'alliance aux élections cantonales, enfin régionales, de la droite et de l'extrême droite, attention, danger, lui aussi, il y a un danger, et il dit, mais pour les combattre, il ne suffit pas, voilà. Alors, n'a pas prononcé le mot de Pétain. Il fallait d'abord que les ministres, tous, aient entendu l'interview de Radio J. Ils n'étaient pas tous. En tout cas, d'où c'est parti, c'est qu'il y a au moins 7-8 ministres, ceux qui n'aiment pas Madame Borne, celle qui les traite de connards en privé, et quand il les reçoit ou tout ça, et qui est très...
Qui traite de connards?
Eh bien, Madame, parce qu'il se trouve que la première ministre a quelquefois un langage un peu ordurier.
Ah bon?
Oui, enfin, bon, très bien, elle leur parle quoi?
Parce que connard, c'est ordurier.
Bon, mais écoute, si toi...
C'était l'insulte préférée de Jean Dormesson.
En tous les cas, c'est une sympathie qu'ils supportent peut-être moins bien que toi. Mais en tous les cas, ils ont téléphoné aux journalistes pour dire attention, qu'est-ce qu'elle a été recadrée. Alors voilà, vous voyez comment ça s'est passé.
Oui,
c'est sorti. Attendez, mais moi je vous raconte.
C'est le crime de l'Orient Express.
Oui, oui, non, mais c'est long.
Voilà, comment?
C'est long.
C'est long,
c'est
mais
long,
oui.
Oui. Mais si on raconte toute l'histoire, on va remonter
Catherine,
à Pétain.
Tous ceux qui ont regardé la séquence, c'est très intéressant parce que tu as bien fait de le dire. Tous ceux qui ont regardé la séquence, moi je l'ai entendu d'abord, et puis après j'ai regardé trois fois de suite.
Oui, parce qu'il y a
les vidéos. On sent bien qu'elle s'est fait d'une certaine manière un peu piégée. Parce que Madame Borne, elle est tombée là où elle penche. Une femme dont le papa s'est suicidé après avoir été dans les camps. Quand on lui parle de Pétain, elle ne va pas vous dire c'était quand même formidable l'époque. Non. Bon, il est bien évident qu'il a sollicité le journaliste, pour le coup. C'est pas par hasard, il a sollicité et elle est tombée dedans. Elle aurait pas dû y aller, mais elle y est allée parce que finalement, c'est ce qu'elle pense.
Parce que dans cette interview de Radio J, à un moment donné, Madame Borne dit « Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen revenir sur le passé et excuser, enfin en tout cas condamner le passé du FN et du RN ». C'est ça qu'elle dit aussi. C'est pour ça qu'on s'est posé la question sur Marine Le Pen et l'héritage.
C'est ce qu'il dit, Pierre, l'interview de Radio J. C'est pour ça que je résume peut-être trop rapidement quand je dis que historiquement, elle a raison, et c'est vrai, au moment de la création des Rassemblements nationaux, il y a pas mal de compagnons qui sont héritiers directement d'une attitude pétainiste, c'est vrai. Mais le Rassemblement national aujourd'hui, puisque ça a changé de nom, elle en reste au Front national. Mais le Rassemblement national aujourd'hui, notamment les dernières élections, ont montré qu'il y a un renouvellement assez considérable
sinon, de
l'électorat de
monde,
qu'on ne peut pas assimiler de toute façon aux pétainistes.
Quand les gens votent pour le Rassemblement National, ils ne disent pas on vote pour Pétain. D'ailleurs, la plupart ne le connaissent pas.
Au moment de la présidentielle, Xavier Bertrand disait « Moi, je continue à dire le Front National ». C'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Pierre, à 4% des électeurs, on peut être composé de pétainistes. À 42% des électeurs, c'est ridicule de parler d'un parti pétainiste.
Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est ce que disait tout à l'heure Gérard Carrérou. Gégé.
Comment ça, Gégé?
Gégé, on l'appelait Gégé. Oui. Non mais, pourquoi? Parce que le couple de l'exécutif, le président de la République et sa première ministre se partagent ce jeu de rôle. L'un l'une plutôt, gère l'aile gauche du parti et l'autre a pris en charge l'aile droite du parti. Parce qu'il a besoin de ces voix d'appoint des Républicains. Oui, on l'a vu sur la loi Liotte et sur l'abrogation, d'ailleurs.
Mais là, là tu sous-entends
Et après,
qu'il y aurait comme un jeu de rôle, mais déjà pensé entre
Il s'est écrit au fur et à mesure du mouvement.
Mais ça s'écrit au fur et à mesure. D'ailleurs, qui aurait pensé aujourd'hui que le problème, alors qu'il n'y a pas de majorité, qu'il y a une majorité relative, qu'il y a aussi un parti Renaissance coupé en deux entre l'aile droite et l'aile gauche.
Mais
et
c'est évident,
en même temps du parti.
C'est une pause. Et d'ailleurs, c'est l'échec du en même temps.
Une pause.
On le voit sur la lune.
Et quand on parle du remplacement de Mme Borne, eh bien, l'aile gauche du parti Renaissance veut absolument la garder et la soutient.
Alors, on en parle juste après. 10h17, on revient avec les grandes voix. Tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Suite des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On parlait de Matignon, on parlait des hypothèses, on parlait de Madame Borne. Alors qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron continue avec Madame Borne ou est-ce qu'on s'en réfère au nom qu'on cite Le Cornu, de Normandie, Darmanin, on parle maintenant de Richard Ferrand.
Moi, j'ai déjà répondu. Alors, je m'abstiens là parce que j'ai déjà répondu.
Catherine,
pour moi, elle reste au moins jusqu'à Noël.
Bon.
Parce que justement, il aura besoin d'elle jusqu'à Noël. Il n'aura pas d'alternative.
Il ne doit pas être content. Voilà. Il ne doit pas s'entendre formidablement avec elle. Je pense qu'il y a
Enfin, il n'était pas content avec Edouard Philippe. Il n'est pas content avec
Il était très heureux. C'est difficile d'être Premier ministre. On peut se dire, étant donné tout ce qu'on pense...
C'est pas nouveau dans l'histoire.
Ben justement, c'est pour ça qu'il en change.
Michel Cotta.
C'est pour ça qu'il en change. Moi, je crois qu'il en a besoin pour le moment d'Elisabeth Borne et qu'en plus, elle a une grande qualité. C'est effectivement de dire aux gens carrément ce qu'ils pensent alors que la vérité, toujours selon Macron, est toujours plus difficile. Donc, elle est cash.
Si elle traite les gens de connards, elle est cash.
C'est important. Il a besoin de quelqu'un
Charles Villeneuve. Je ne me poserai pas la question de cette manière. Oui. Madame Borne ou pas Madame Porte. Mmh. Quelle personnalité de la majorité actuelle, majorité relative, ou même d'ailleurs, y a-t-il aujourd'hui qui pourrait faire bouger les lignes et ramener une majorité absolue? Vous en voyez, vous?
Non, mais il faut de...
Catherine.
Non, on n'en voit pas, mais il faut du sens politique, de la bienveillance pour organiser des trêves momentanées, voyez, sur un projet ou sur l'autre. Bon, qui peut faire ça? Qui est capable de parler à tout le monde? Et puis, quand on veut, Madame Borne a dit, je ne veux ni des voix de l'extrême-gauche, ni des voix de l'extrême-droite. Donc, elle ne veut négocier qu'avec les LR, finalement.
Ça n'a pas très bien marché.
Ça n'a pas très bien marché marché parce que on voit bien aussi que dans tous les partis ça se passe comme ça. En tous les cas, à l'Assemblée nationale, le parti, qui le tient? Personne. Il y a une aile une aile contre le projet alors qu'ils étaient tous au départ. Tous les LR, ils étaient pour le retraite à 65 ans. Vous voyez ?
Non, mais cela étant, il y a une démonstration qui a été faite. Changer Madame Borne et la remplacer, par exemple, par Darmanin ou par le maire. De Normandie. Enfin, en tout cas, moi, je m'arrête à Darmanin et à le maire pour l'instant. De Normandie, c'est encore une autre affaire. Mais si je peux terminer.
Oui.
Ça changerait. En quoi ça changerait le centre de gravité de la majorité ? Ça irait plutôt vers la droite.
Oui.
Et ça mettrait fin à l'idée du dépassement des clivages. Ce que ne veut pas Emmanuel Macron, manifestement, parce qu'il tient à son histoire depuis le
ni
départ.
Ni gauche, ni droite.
Ni gauche, ni droite, etc. Mais il y a quand même un rapprochement avec les Républicains, texte par texte. On l'a vu sur la loi Liotte, c'est-à-dire qui souhaitait abroger, imposer l'abrogation de la loi sur les retraites. Il n'y a pas d'accord global avec LR, mais il y a possiblement un accord texte par texte.
Ils ont sauvé quand même les Républicains, pour aller abonder dans le sens de ce que vient de dire Charles Villeneuve, ils ont sauvé deux fois déjà la vie du gouvernement de Madame Borne. La première, c'est au moment de la motion de censure. Il n'y a pas eu toutes les voix, mais il y en a eu 8 quand même qui ont sauvé le gouvernement, et les Républicains sont là-dedans. Et deuxièmement, sur le vote contesté, que d'aucuns traitent de magouille, c'est un peu d'ailleurs mon sentiment, de magouille au moment du vote de la commission... où des Républicains qui étaient censés pas voter ont été changés.
Ont été changés.
Bon. on peut dire deux fois de suite, les LR ont été la béquille du gouvernement. Absolument. De Mme Borne. Alors après, est-ce que ça ira au troisième stade ou pas? On verra.
Enfin, sur le clivage, gauche-droite, vous vous souvenez de ce que disait François Mitterrand concernant le centre? Le centre, il est ni de gauche, ni de gauche.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que pense Olivier Faure aujourd'hui. Moi, je voulais ajouter sur Elisabeth Borne qu'elle a une qualité importante, c'est qu'elle est respectée par les syndicats. Quoi qu'il se soit passé avant, et quoi que ce texte sur la retraite ait fait, en tout cas, on sent que les gens sortent, les représentants syndicaux sortent généralement en disant « Non, mais on a du respect pour elle, mais... » Donc c'est important quand même, dans une période où il y a pas mal de lois sociales à faire passer. Et ça, pour le coup, le président de la République n'a pas la carte qu'il lui faudrait pour gagner de ce côté-là.
C'est pour ça qu'elle restera jusqu'à Noël.
marque une pause et on va reparler justement de la proposition Liotte et de ce qui s'est passé en commission des affaires sociales. Une minute pour vous dire que chaque samedi et chaque dimanche, Isabelle Morizet vous donne rendez-vous dès 13h sur Europe 1. Et il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est un entretien d'une heure où Isabelle recueille les confidences de son invité. Aujourd'hui, elle invite à Roland-Garros la footballeuse Marinette Pichon, dont le biopic Marinette sort en salle mercredi. Un film adapté de son livre, Ne jamais rien lâcher. Rendez-vous donc à 13h sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros. Et nous, on se retrouve dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney sont les grandes voix, comme tous les samedis matins. Les retraites, c'est pas fini ce mercredi. Les députés s'étaient donné rendez-vous pour débattre de la proposition Liotte à la Commission des affaires sociales. Sauf qu'à la fin de la journée, 38 voix pour, 34 contre, une abstention à l'issue du vote sur l'article 1er de cette proposition de loi sur la mesure d'âge, vidant ainsi le texte de sa mesure principale. C'est donc sans fin, Catherine Ney, en fait, débat.
Mais là, le LR qui avait quand même promis à Mme Borne de voter la loi. Bon, mais là, il essaie de se rattraper et les dirigeants ont changé les commissaires parce qu'il y en avait deux. Une qui avait voté la motion de censure, donc, et puis l'autre qui était contre la loi, mais qui avait quand même dit qu'il ne voterait pas la loi Liotte. Vous voyez, donc, mais enfin, donc, pour être sûr, eh bien, ils les ont changés par... Deux députés qui ont pu...
Mais il y a deux façons de considérer cette manœuvre. Il y a ceux qui sont... J'en ai entendu un certain nombre qui vous disent « Mais vous savez, c'est une pratique qui a déjà été... » C'est vrai. En plus, c'est vrai. Qui a déjà été utilisée. Bon, je trouve simplement qu'à un moment donné, trop, c'est trop. C'est-à-dire que depuis cette affaire, l'accumul... Il n'y a rien eu d'illégal. Ni au niveau parlementaire, ni dans l'usage de la Constitution, en tout cas pas selon
ni
le Conseil
constitutionnel.
Il n'y a rien eu d'illégal, mais il y a, et c'est le sentiment qui prédomine chez beaucoup de gens, de démocrates, de gens qui ont le sens du vote républicain, c'est qu'on a accumulé à chaque fois les empêchements, et je ne reviens pas dessus, pour dire, de toute façon, on ne votera pas. Je finis là-dessus. Il demeurera dans les annales que cette loi, alors on peut dire que c'était la mère de toutes les lois ou que c'est une loi relativement secondaire, peu importe, il demeurera qu'elle n'aura pas été votée par l'Assemblée nationale selon les pratiques habituelles. Ouais. Et dans les démocraties qui nous entourent, puisqu'on on est très européen et notre président est super européen, etc., dans les démocraties qui nous entourent, on n'aurait jamais vu un truc comme ça.
Je suis désolé
mais c'est comme ça.
Michel,
ce qui me paraît quand même incroyable, la commission Liotte et la proposition Liotte est aussi incroyable, impensable. Ce sont des gens qui... Pour beaucoup, était pour une retraite il y a longtemps à 65. Enfin, je trouve Charles de Courson qui dirige.
Déposer un amendement l'article 1er.
Si vous appelez pas ça une manœuvre, alors moi je veux bien qu'il y ait une manœuvre démocratique avec l'article 40 ou pas l'article 40. Mais alors si vous appelez pas ça une manœuvre, je ne sais pas ce que c'est que la commission.
Toutes ces manœuvres ne grandissent pas le Parlement. La démocratie française ne sort pas. Vous ne pouvez pas me dire qu'elle sort grandie de cet épisode.
Je vais te rappeler le mot de quelqu'un que tu as bien connu, Gérard. C'est Michel Rocard qui disait « Avec les retraites en France, on a de quoi faire sauter 40 gouvernements. » C'est-à-dire que depuis que François Mitterrand a passé l'âge de la retraite, c'est un tabou auquel il ne faut pas toucher.
Oui, mais finalement, au bout du compte... On va voir ce qui se passe le 6 juin. Et si vraiment la
mobilisation... Si la France descend dans la rue.
Au bout du compte, on a quand même l'impression qu'après des mois... De remous, ça a fini par passer.
Charles Wiener.
Comme disait Nicolas Sarkozy, on a quand même l'impression, tout le monde a protesté, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas dégradé.
Charles.
Sûrement pour ça. Mais la Constitution donne les moyens juridiques à la présidente de l'Assemblée nationale et au bureau de l'Assemblée.
C'est démocratique, la Constitution.
D'éviter l'adoption de la proposition de Charles de Courson, de la loi Liotte, qui voulait l'abrogation de la loi sur les retraites, sérieusement. Mais là où Gérard a raison, c'est que l'image autour des débats abrogation, pas abrogation, ce qu'a précisé tout à l'heure Catherine Ney en disant les deux députés des Républicains dont l'une avait voté
la motion de censure.
La motion de censure et l'autre ne savait plus très bien d'ailleurs ce qu'elle a fait.
Il était contre, mais
voilà. C'est vrai que c'est une séquence assez longue, depuis le temps qu'elle dure, qui renforce quand même l'idée que cette loi sur les retraites n'a pas été adoptée avec une légitimité parfaite, claire et transparente de la démocratie, de ce qu'on appelle la démocratie réelle. Mais c'est vrai que ça donne une idée quand même pas très nette.
Et qu'il y aura des conséquences politiques à un moment donné.
Conséquences sur les retraites, en tout cas.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au Conseil constitutionnel qui a dit que ça l'était, il n'y a pas eu un vrai débat. Mais il y avait c'est le point qui sort cette histoire, qui est formidable, parce que pour une fois, les conseillers ont parlé. Eh bien, c'était Fabius qui voulait absolument, qui était contre, et il y avait huit qui disaient, mais non, c'est tout à fait constitutionnel.
Oui,
alors, d'ailleurs, dans le gouvernement, on se disait, que va nous préparer Fabius ?
Oui, parce qu'il y a une certaine jalousie.
Parce qu'entre Fabius et Macron, et je veux dire, là, les membres du Conseil constitutionnel ont résisté.
Ils ont fait du droit.
Et ont essayé d'éteindre...
Pas fait de la politique.
Éteindre cette passion...
On imagine quand
cette
même...
Cette passion triste.
On imagine deux anciens premiers ministres.
Michel remarquait... que sur l'agence de notation américaine... que tout le monde attendait, il y avait une sorte de fébrilité. Or, depuis jeudi soir, on savait qu'elle n'allait pas dégrader quasiment parce que les marchés étaient tout à fait clairs. Il n'y avait aucune fébrilité, on le savait. C'était surtout une fébrilité médiatique en permanence en disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. En réalité, ils ne bougeaient pas. Et d'ailleurs, on a assez critiqué Macron en disant s'il fait cette loi et s'il veut aller jusqu'au bout, c'est par rapport au marché financier.
On l'a dit ici, bien sûr.
Mais d'ailleurs, il l'avait dit lui-même à la sortie de l'été, il avait dit financièrement, le pays ne peut pas se le permettre. Et on avait critiqué Emmanuel Macron pour ce mot-là en disant, regardez, c'est le banquier qui parle et non pas le président de la République. Mais en réalité, il avait ça dans le giron.
Qui avait raison et qui a raison.
Et le résultat, il monte dans les sondages.
Voilà.
Mais en attendant, ce que disait Gérard sur ce qu'on appelle communément la démocratie représentative, elle en prend un coup avec ce genre de pugilat en commission des affaires sociales, parce que les Français qui ont élu leurs députés en juin de l'année dernière se disent, mais qu'est-ce qui se passe ?
Oui, mais ce n'est pas seulement la faute du pouvoir et du gouvernement. Qui, de toute façon, anime le pugilat permanent, c'est quand même pas la majorité relative, ou même les Républicains. C'est
je parle des députés,
même le Rassemblement national.
C'est quand même...
Alors on procède par élimination, merci.
C'est la France insoumise, on le voit.
Je n'ai pas exonéré la France insoumise, son comportement a été inacceptable, inadmissible. Je constate simplement, en termes de démocratie et de fonctionnement... Je pesais mes mots, en termes de fonctionnement démocratique, ce qui s'est passé n'est pas la bonne façon.
La Constitution existe, elle n'a pas été violée.
10h36, une pause et on revient avec les grandes voix tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Suite des grandes voix avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carreau. Et après donc cette commission qui se déroulait mercredi où une députée de la France Insoumise a dénoncé, je cite, les dérives mafieuses de la Macronie. Voilà l'examen qui arrive de cette proposition Liotte le 8 juin, mais aussi cette nouvelle journée de mobilisation le mardi 6. Pourquoi faire ? Pour un dernier baroud d'honneur, Charles Villeneuve ?
Oui, moi je le pense en tout cas.
Oui, moi aussi.
Ils savent très bien, enfin je ne crois pas que les syndicats y croient encore, sur le plan de la mobilisation générale telle qu'elle a été réussie au fur et à mesure et qui a d'ailleurs troublé, je dirais, au minimum les esprits pendant assez longtemps. Et, il y a quelques secondes, Catherine Ney me disait « On sent qu'il y a une sorte d'apaisement général » et c'est vrai, moi je le ressens de la même manière. Là, on est vraiment dans la phase du baroud d'honneur. Les syndicats vont passer à autre chose. Ils ont un agenda social dans leur plan. Et c'est vrai qu'il est assez important, avec des étapes tout aussi importantes. Cela étant, ils ont réussi deux choses, il faut le dire. Premièrement, un nombre d'adhérents supplémentaires, d'adhérents qui les avaient un peu fuis ces dernières années. Or, ils ont reconstitué finalement leur peloton d'adhérents, manifestement. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, ils ont certes perdu la bataille finale, puisque la loi sur les retraites, elle est adoptée, elle sera de toute façon appliquée. Mais ils ont acquis une place centrale comme interlocuteur dans le débat public.
Et à l'intérieur de cette place centrale, il y a un changement très important qui va se produire, dont on va voir les effets commencer maintenant. Ouais. Il y avait un chef de file non écrit, si j'ose dire, qui était Laurent Berger, l'homme de la CFDT, etc.,
qui va changer,
qui va maintenant disparaître. Enfin, il fera peut-être autre chose, il fera sûrement autre chose, mais pas le chef syndical qu'il était. Et on a le surgissement de Madame Binet, qui est très politique. CGT. Très politique, cégétiste dans le...
plus radical que son prédécesseur.
Cégétiste radical, donc. Et on va voir là s'il y a une inversion. À partir du moment où il y a une recomposition syndicale un petit peu, on va voir s'il y a une inversion du rapport de force. Je vous rappelle que la CFDT était devenue le premier syndicat et que là, on a une possibilité que ça rebascule.
Mais en plus, nous avons beaucoup dit qu'il y avait une union syndicale. Et ça, c'est vrai que c'était très réussi. Mais on sent à certains petits détails qu'elle se fissure. On sent que, par exemple, la CFDT va participer à d'autres rencontres avec le gouvernement, tandis que la CGT campe un peu sur ses positions. On sent quand même que cette unité syndicale qui avait été forte tout au long de la campagne des retraites est en train de changer. Et d'ailleurs, même sur la CGT, je crois qu'on peut vérifier que la CGT, localement, signe beaucoup d'accords avec le patronat. Et beaucoup plus peut-être que la CFDT.
Vrai, ça a toujours été
et
vrai.
Et plus que la CFDT. Oui. Donc, quand il y a des positions de principe, et puis il y a ce qu'ils font à la base.
Il y a les augmentations de salaire, effectivement. Quand on est en inflation telle qu'on l'est, on crache pas
les coulisses,
sur les augmentations.
Hein, et puis il y a le devant des caméras. Laurent Berger qui avait dit, il y a quelques semaines déjà, c'est certain qu'on ne va pas faire des manifestations à répétition.
Oui. Voilà, ça donne quand même... Et il faut savoir terminer une grève, comme avait dit Maurice Thorez en 1940.
Coupé honteusement,
non,
pardon.
Il faut savoir partir aussi, voilà.
Maurice Thorez, c'est bien.
Oui, non, j'ai toujours entendu les ministres du Travail, des premiers ministres dire ce qui est insupportable avec les syndicats en France, c'est quand on les reçoit en tête-à-tête, d'ailleurs ils viennent rarement en tête-à-tête, ils sont toujours accompagnés de quelqu'un, on arrive à avoir des conversations, même sur le fond, assez raisonnables, en disant ce qu'il faut faire, et puis on croit qu'on a un accord, et ils sortent sur le perron, ils disent tout à fait autre chose, quelque chose de radical, parce qu'il faut parler uniquement à leur mandant et c'est tout, voilà. Donc c'est ça ce qui est terrible en France et ce qui est la différence avec en Allemagne. Les syndicats, il y a une parole à l'intérieur, il y a une parole à l'extérieur et tout le monde est d'accord. Mais la différence aussi en Allemagne, c'est qu'il y a très peu, il y a deux grands syndicats, tandis que chez nous, l'équation, c'est maximum de syndicats pour minimum de syndiqués.
Et puis, il n'y a jamais eu d'alliance, même à l'intérieur de la social-démocratie allemande. Alors, il y a une alliance entre les syndicats et le gouvernement. En France, ça n'existe pas. C'est une tradition complètement différente. Donc, les syndicats sont de toute façon toujours contre le gouvernement, d'une certaine façon.
10h44, une nouvelle pause dans les grandes voies. Et dans un instant, on parle du problème sans fin du harcèlement scolaire. À tout de suite.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des Grandes Voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. C'était le 12 mai dernier à Vendin-le-Vieil, victime de harcèlement scolaire depuis des mois. La jeune Lindsay, 13 ans, s'est suicidée. Ses parents avaient pourtant alerté à de nombreuses reprises l'administration scolaire. Ils étaient même allés jusqu'à écrire au président Macron. L'avocat de la famille a annoncé le dépôt de 4 plaintes pour non-assistance à personne en péril à l'encontre du directeur de l'établissement, de la
académie de Lille, des policiers chargés d'une première plainte et des réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Cette affaire est-elle l'affaire de trop ou au contraire, Gérard Carrérou, celle qui va faire bouger les choses?
J'espère qu'elle fera bouger les choses parce que c'est quand même pour beaucoup de Français un révélateur. Parce que on sait, tout le monde sait et parfois a connu ou a vécu des histoires de harcèlement il y a 20, 30 ou 50 ans. Ce qui apparaît aujourd'hui et qui est extraordinaire, c'est qu'il y aurait 10% des élèves qui seraient aujourd'hui harcelés. C'est-à-dire un million, en gros, un bon million d'enfants harcelés. Donc c'est l'ampleur du problème. C'est un problème qui n'est pas du tout un problème secondaire. Dès lors qu'un million d'enfants sont concernés directement. Première chose. Deuxième chose, ce qui apparaît à tout le monde, c'est que c'est la faillite d'une certaine forme d'école. Je parle là, moi qui suis un ancien de l'école publique, c'est la faillite de l'école publique. Puisque à tous les niveaux et tout ce qu'on a entendu sur l'affaire rapporté par les uns ou par les autres, c'est que la maman s'est démenée, qu'elle a essayé d'intervenir dans toutes les façons possibles et qu'on l'a renvoyée en disant pas de vague, pas de vague, enlevez son téléphone à votre fille, etc. Des réponses de ce genre. Il n'y a pas eu vérité. Alors moi je dis, il y a une époque, et c'était la mienne, où il y avait des surveillants généraux dans tous les lycées, dans tous les établissements secondaire, qui faisait d'abord cette surgée, c'était en même temps celui qui faisait la discipline. Aujourd'hui, on dit mais il y a des professeurs référents. Comment voulez-vous qu'un prof référent qui a ses classes à enseigner puisse aussi s'occuper de détecter? Donc ça veut dire qu'il y a une faillite globale du système et c'est pas le ministre actuel, me semble-t-il, pour l'instant, qui donnera de bonnes solutions.
Michel Cotta.
Bon, c'est un vrai problème parce qu'il y a tellement de faits nouveaux qui sont intervenus. Il n'y a pas de harcèlement sans réseaux sociaux, par exemple. On le sait. Il y a un harcèlement, il y a toujours eu des gosses dans la cour qu'on bouscule. Ça n'est pas la même chose que des milliers et des milliers d'insultes comme la fille en a reçu à 13
du
ans. C'est pas
soir.
Possible.
Du
alors,
matin
pourquoi
au soir.
Et ça continue.
Pourquoi, alors, pourquoi est-ce que les professeurs... Oui. Franchement, les professeurs, ils auraient tout, quand on leur parle, et elle leur a essayé de leur parler, les professeurs auraient tout le loisir de dire ça, c'est pas... Bon, c'est difficile pour eux, c'est difficile parce qu'ils n'osent pas affronter quand même l'ensemble des syndicats ou l'ensemble des rouages de l'éducation nationale qui est pas de vague, tout le monde est égaux, tout le monde est égaux, il n'y a pas... Il y a pas, tout le monde est légal, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchants qui font des tweets et il n'y a pas de gentils qui sont... c'est vraiment... c'est ce que je veux dire. Pas de tête, toutes les têtes qui passent. Je trouve que le pas de vague, comme pour Samuel Paty,
exactement.
Quand même, parce que je
ne
veux pas comparer les deux.
Voilà,
je veux pas comparer les deux, mais c'est quand même
venons,
ça.
Samuel Paty a été lâché par ses collègues et par la direction.
Le pas de vague est quand même absolument responsable de tout, et les professeurs quand même, quand un élève arrive en pleurant et en leur disant « je suis harcelé », il faut faire quelque chose. Voilà. Il faut faire
Charles
quelque
Villeneuve.
Chose.
Oui, mais dans ces affaires, parce que c'est pas la première, c'est la plus douloureuse, peut-être parce que nous avons beaucoup de détails, il y a deux niveaux. Il y a le niveau que a commenté Michel Cotard, qui est très vrai, et ça, l'État ne peut pas se croiser les bras par rapport au phénomène des réseaux sociaux. C'est-à-dire essentiellement Instagram et le deuxième...
TikTok.
Facebook.
Facebook. Les deux sont impliqués, puisque vous savez que ça continue. Cette adolescente est morte le 12 mai dernier, et depuis, il y a un certain nombre de commentaires. On ira pisser sur sa tombe, on ira détruire sa tombe, on ira vomir sur sa tombe, etc. etc. Vous imaginez l'effet psychologique sur la famille qui est déjà complètement, de toute façon, en plein désastre par rapport à la mort que s'est donnée cette gosse.
Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça
alors,
la question.
Et le deuxième niveau, c'est les enseignants.
Voilà.
Les enseignants, il y a un programme qui s'appelle PHARE, qui est de sensibiliser les enseignants, non seulement aux plaintes des enfants, de les prendre en considération. Et dans ce à Vendin le Vieil, il faut savoir qu'il y a des témoignages qu'on a vus apparaître notamment dans Le Parisien. Il y a un papier hier dans Le Parisien qui est terrible à lire, où il y a des mères de famille qui sont venues voir le proviseur Et le proviseur ayant comme réaction, dites à vos enfants de se durcir. Mais ce n'est pas la peine de nous embêter en permanence avec ces histoires. Il faut les régler entre vous. Mais c'est invraisemblable. Par contre, on ne peut pas généraliser l'attitude des enseignants. Il y a notamment, moi je connais, j'ai eu affaire à un de ces problèmes par rapport à ma petite fille. Eh bien, le lycée où elle est, enfin le collège où elle est...
Qui est un enseignement privé.
Gerson,
oui, mais pour le
principe,
c'est
la différence.
Ils ont tout de suite réagi et ils ont réglé le problème. Bon, et c'est ce qu'on leur demande, parce que quand un enfant vient vous voir, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas possible de réagir tel que nous rapportent en tout cas les témoignages de plusieurs mère de famille dans ce collège.
Oui.
C'est invraisemblable d'être indifférent aux plaintes des gosses. Oui. Il faut le prendre en considération et essayer de régler le problème avec beaucoup d'énergie.
Catherine.
Non, mais il y a d'abord les enfants sont méchants. On a toujours connu ça quand on était enfant dans les écoles. Je veux dire, c'est des enfants, une fille qui est plus grosse qu'une autre, elle est harcelée, elle est moquée, un infirme est moqué. Et là, il y a la jalousie, et puis avec TikTok, quand on se montre et tout ça, des filles qui sont plus belles et qui déclenchent des crises de jalousie, et on veut, et surtout si elles s'exposent sur TikTok, elles se montrent qu'elle est... Il y a une jalousie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que dans l'affaire de l'INSEE, la mère d'une des élèves, d'une des harceleuses, s'y mettait et menaçait l'INSEE en lui disant « Mais attention, il peut arriver quelque chose ». Non, c'est ça. Et donc, ça crée une espèce de... C'est les réseaux sociaux qui créent une folie générale.
Mais on fait quoi ? Jérôme Béglé, hier dans l'émission politique, hier soir sur Europe 1, disait « Mais on interdit aux moins de 18 ans Facebook et Instagram. » Et puis voilà, puis c'est terminé. Mais est-ce que c'est aussi simple à faire ?
Mais non, mais personne ne peut interdire.
Personne ne peut interdire
les réseaux.
Pourquoi ?
Facebook, ce n'était pas avant 13 ans.
Mais vous savez comment ça fonctionne. Est-ce que tu as plus de 18 ans ? Bien sûr. Clac, je clique et puis j'accède au truc.
Non, mais Pierre, laissez passer ce qui se passe par rapport au... C'est passé par rapport à l'INSEE dans Facebook et dans Instagram. C'est pas possible de laisser l'affaire
c'est
en
pas
état.
Possible. Oui,
il a eu, écoutez, Michel a eu raison de le dire tout à l'heure. Il faut faire absolument, faut pas dire, on pourrait comparer à. Il faut absolument faire un parallèle entre l'émergence de ce phénomène massif qui est le harcèlement et ce qui s'est passé avec l'émergence massive de l'islamisme à l'école, qui a abouti, si vous voulez, à la décapitation de Samuel Paty. Et dans les deux cas, on a deux facteurs principaux qui sont, d'ailleurs, il y a aussi dans les deux cas, je dirais, il y a trois facteurs au moins, mais il y a les réseaux sociaux, mais on n'y revient pas. Mais il y avait d'abord le déni. On est dans le déni. On ne veut pas voir le problème de la montée de l'islamisme, pas plus au niveau du ministre, au niveau du port de vêtements qui devraient être interdits, etc. Le ministre, pour l'instant, il est aux abris. Et de la même manière, après le déni, il y a le pas de vague. Et dans les deux cas, ça ne concerne pas quelques dizaines ou quelques centaines, ça concerne des dizaines de milliers, des centaines de milliers de nos enfants. Et effectivement, ce sont des mesures drastiques qu'il faut prendre. Alors, je ne sais pas si ça passe par une renégociation avec les firmes qui font la diffusion, effectivement, de ces choses.
Ça n'arrête pas.
Il va bien falloir y arriver. Il y a une époque où on disait, ça serait bien, par exemple, qu'à l'école, les enfants, quand ils entrent dans une classe, ils déposent leur portable.
Oui.
Blanquer l'avait abordé.
Oui,
ça ne s'est jamais fait. Une fois à l'école, ils ont effectivement les écrans. Et chez eux, ils passent leur temps devant les écrans. Et les parents, là c'est autre chose, parce que je mets aussi les parents en cause. Les parents sont en cause. Peuvent pas seulement effectivement se reposer sur la faillite des enseignants quand il y en a. Et c'est les parents eux-mêmes. L'éducation des enfants aujourd'hui passe par la maîtrise des écrans.
Tout à fait.
Ça va plus loin, hein, parce que ça concerne tous les milieux. On sait bien qu'il y a ce moment une mission qui est dirigée par Tristan Mendès France qui essaye de dire ce qu'il faut faire. Et il vous dit lui-même, on dit, mais enfin, ils n'ont qu'à dire leur identité, au moins. Et il dit, non, ça ne sert à rien.
L'anonymat, de toute façon, est un des vrais problèmes.
Merci les grandes voix, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et on salue Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bonjour Pierre.
Bonjour Laurent.
Et bonjour les grandes voix. Eh bien, je ne sais pas quoi cuisiner, dites-moi. Hein, ça nous est tous arrivé de dire cette phrase. Eh bien, on va vous aider avec plein d'idées, avec Sonia Esgulian qui sera notre invitée chef créative. Et Isabelle Mergault nous rejoint pour partager un beau plat du jour. À tout de suite.
Tout de suite.